Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Anne-Laure Janson et voici vos manchettes. Le réseau public CBC Radio-Canada aura une couverture des Jeux paralympiques sans précédent. Paralympique toujours, Moscou organise une compétition parallèle. Un guide pour accompagner la mort par le jeûne. Un projet pilote pour accroître la sécurité des aînés. Et du tennis sonore cet automne pour les personnes aveugles et malvoyantes. Alors que les Jeux paralympiques de Rio débuteront dans un peu plus d'une semaine, le consortium de diffusion paralympique canadien est heureux d'annoncer que c'est à CBC et Radio-Canada que le public pourra profiter d'une couverture quotidienne de la cérémonie d'ouverture le 7 septembre jusqu'à la cérémonie de clôture le 18 septembre. Les plateformes numériques de CBC Radio-Canada fourniront une couverture quotidienne en direct, pouvant aller jusqu'à 11 signaux de diffusion simultanés, permettant ainsi au public de choisir ce qu'il veut voir sur le site de cbcsport.ca/paralympics et ici.radio-canada.ca/paralympique sur les applications de CBC Sport pour les appareils iOS et Android également. La couverture à la télévision sera offerte tous les jours sur CBC Radio-Canada, Sportnet One et MRI TV. En tout, le consortium fournira plus de 700 heures de couverture des Jeux, le plus grand total jamais offert au Canada pour des Jeux paralympiques. Parmi les autres membres du consortium qui prévoient offrir du contenu, on note Yahoo Sport Canada, Sentinel News et Facebook Live. Greg Strimlow, directeur général et chef de mission pour la couverture de CBC Radio-Canada de Rio 2016, dit « En tant que réseau paralympique du Canada, nous sommes déterminés à faire valoir les histoires et le talent remarquable de ces athlètes du Canada et de partout dans le monde sur ces multiples plateformes, assurant que les Canadiens ne rateront pas une minute de l'action à Rio. » La programmation prévue par ICI Radio-Canada Télé comprend la cérémonie d'ouverture animée par Marie-Josée Turcotte le 7 septembre à 23h. Une émission spéciale sera aussi présentée le vendredi 9 septembre à 21h, heure de l'Est. La cérémonie de clôture sera également animée par Madame Turcotte le dimanche 18 septembre à minuit. Les samedis et dimanches, Marie-Josée Turcotte suivra l'action en direct de 14h à 17h. Et pendant les Jeux, Jean Saintonge proposera des émissions de 60 minutes depuis Rio tous les soirs du 8 au 17 septembre, du lundi au vendredi à 23h et le week-end à 22h30. Plusieurs analystes seront également à ses côtés. Et de son côté, la Russie organise dans une semaine une compétition de 2 jours pour ses athlètes paralympiques exclus des Jeux de Rio, a annoncé aujourd'hui le président du comité paralympique russe, Vladimir Loukine. Les compétitions auront lieu dans un centre d'entraînement de la région de Moscou. Ce tournoi débutera le 7 septembre, jour de l'ouverture des Jeux, et prendra fin le 8 septembre, tandis que les Jeux paralympiques à Rio se prolongeront jusqu'au 18 septembre. Début août, le Comité international paralympique avait décidé d'exclure le Comité paralympique russe en raison d'un vaste scandale de dopage. La semaine dernière, le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel déposé par les Russes, une décision jugée en dehors de toute justice par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier avait dès lors promis d'organiser une compétition pour que les athlètes russes puissent montrer leurs compétences. Le Collège des médecins prépare un guide pour aider les médecins à accompagner leurs patients qui choisiront de mettre fin à leur jour par le jeûne en se privant d'eau et de nourriture, comme l'a fait Hélène Leblanc, atteinte de sclérose en plaques et jugée inadmissible à l'aide médicale à mourir. C'est un choix que pourraient faire de plus en plus de patients, selon le Collège des médecins. Même la meilleure loi au monde ne pourra pas prévoir tous les cas de figure, donc il va toujours y avoir des cas dans la marge qui vont prendre des décisions extrêmes et qui vont susciter beaucoup d'émotions, note le secrétaire du Collège des médecins, le docteur Yves Robert. Selon le Collège, les cas comme ceux de Madame Leblanc sont peu fréquents. Leur nombre serait toutefois appelé à croître, principalement chez les patients atteints d'une maladie dégénérative dont l'espérance de vie est difficile à définir. La loi québécoise impose qu'un patient soit en fin de vie pour avoir droit à l'aide médicale à mourir. Moins restrictive, mais trop floue aux yeux des contestataires, la loi fédérale exige quant à elle que la mort d'un patient soit raisonnablement prévisible. Les deux lois coexistent en ce moment. Le Collège des médecins indique qu'un immense flou subsiste sur leur application et de nombreux médecins craignent des poursuites criminelles. Le ministre de la Santé du Québec, Gaëtan Barrette, confirme de son côté que c'est la loi fédérale et le code criminel qui ont préséance sur la loi québécoise. Selon lui, le problème réside dans la notion d'une mort raisonnablement prévisible. Le ministre Barrette soutient que ce concept est trop flou et qu'il ne respecte pas l'arrêt Carter de la Cour suprême, qui, soutient-il, devrait rendre l'aide médicale à mourir disponible aux patients qui souffrent de douleurs sans espoir de guérison. Le ministre Barrette avance aussi que si la condition initiale d'Hélène Leblanc ne lui permettait pas d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, elle aurait dû y avoir droit après avoir entamé son jeûne. Il y a un moment dans l'évolution du jeûne où la mort est clairement inévitable et à ce moment-là, la personne a accès à cette aide, soutient le docteur Barrette. Le ministre est convaincu que le Collège des médecins aidera à clarifier la situation. Dans le but d'améliorer la sécurité des aînés, la résidence Villa Saint-Georges et la ville de Victoriaville ont mis sur pied un projet pilote qui consiste à utiliser une plaquette signalétique pour connaître les limitations physiques des résidents. Le projet sera mis en œuvre début septembre. Les limites de chacun seront connues dès l'entrée de la chambre grâce à 300 plaquettes signalétiques apposées devant. Grâce à PictoSécure, il sera facile et beaucoup plus rapide pour les intervenants d'être informés des limitations physiques des aînés qui vivent dans cette résidence de Victoriaville. On espère que cet outil aidera les aînés à sortir de leur isolement. Les services d'urgence saluent cette initiative qui va certainement faciliter leur travail. Les autres résidences pourront elles aussi implanter l'outil sur une base volontaire. En raison de la popularité de l'activité auprès de ses membres âgés de 14 ans et plus, l'Association sportive des aveugles du Québec propose une nouvelle session de tennis sonore pour la session automnale 2016. Aussi appelé blind tennis, le tennis sonore est un sport très pratiqué d'abord au Japon. Il a été créé en 1984 par un étudiant aveugle qui souhaitait jouer au tennis. L'invention d'une balle spéciale qui émet un son distinct quand elle est frappée ou qu'elle rebondit a fait du tennis pour aveugles une réalité. Le tennis sonore est pratiqué maintenant dans une vingtaine de pays à travers le monde. Les inscriptions à la SAC se poursuivent jusqu'au 8 septembre. Les cours débuteront le 20 septembre et se termineront le 22 novembre au gymnase Centre-Sud à Montréal. Tous les détails concernant la procédure d'inscription sont sur le site de la SAC sportaveugle.qc.ca/sport/tennis-sonore. C'était votre bulletin du handicap en ce mercredi 31 août sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Chers organismes, envoyez-nous toujours vos actualités au canalm@vuesetvoix.com et des liens vers les nouvelles de notre bulletin sont aussi disponibles au canalm.vuesetvoix.com. Merci.